Et je vous invite à aller dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11, pour voir des conseils qui nous sont donnés. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Peut-être que vous ne savez pas que Timothée, les lettres à Timothée, ce sont des lettres qui sont faites pour les pasteurs, normalement. Mais pas que. Mais c'était le but. Paul a voulu former Timothée, a voulu former aussi Tite, c'est dans le même esprit, des jeunes pasteurs qui étaient là et qui avaient besoin de conseils. Mais ces conseils qui sont donnés, ils sont aussi valables pour chacun d'entre nous. Et regardez ce qui est dit dans ce verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. » Remarquez déjà qu'il est question de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de l'homme de Dieu, il y a une connotation, je ne sais pas comment expliquer. Il faut un honneur particulier à rendre à l'homme de Dieu. Mais dans l'esprit dans lequel c'est écrit, Paul lui dit juste, tu es un être humain dévoué à Dieu. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont dans ce cas-là? Des êtres humains qui sont dévoués, qui ont dévoué leur vie à Dieu. Oui, c'est les pasteurs qui dévouent leur vie, c'est leur travail. Non, non, c'est pas un travail dont je parle. Je parle du fait d'offrir notre vie comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Mais ça, on est tous concernés. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu qui appartiennent à Dieu. Ben, bien sûr, sinon on a donné notre vie au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, ben faisons-le ce matin. Mais c'est à des hommes et des femmes de Dieu que s'adresse cette parole. C'est des conseils afin que nous puissions vivre la vie éternelle. Je ne voulais pas continuer la série et puis finalement j'ai été ramené dans cette série sur la vie éternelle. Vous avez remarqué l'expression qui est donnée, saisis la vie éternelle. Saisis, ça veut dire empare-toi, agrippe-toi, mets la main sur la vie éternelle. Donc on comprend bien que ce n'est pas question de juste l'espérance de loin, du lointain dans le paradis, super, on aura la vie éternelle. Mais c'est quelque chose que l'on vit maintenant. Seigneur, tu me donnes la vie éternelle ce matin, je veux la saisir. Et je veux que ça ait des conséquences, un impact aujourd'hui dans ma vie, cette vie éternelle. Parce que la vie qui vient de Dieu, elle ne peut pas faire autre chose que de nous transformer. La puissance de Dieu est tellement grande que quand on la prend et quand on la met à l'intérieur de nous par sa grâce, quand on la saisit, ça fait quelque chose. Regardez. Pour mieux comprendre cette expression, c'est super, la Bible elle est super. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis toujours... c'est super bien dit, les mots ils sont excellents. Et regardez ce verset 17. Paul il a dit, bon quand je vais dire saisis la vie éternelle, il y en a en relisant, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Alors il va donner un exemple au verset 17. En prenant l'exemple des personnes qui sont riches. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Et regardez ce qu'il dit, afin de saisir la vie éternelle. Amen. Amen. Comment est-ce que je fais pour saisir la vie éternelle? Ben, c'est-à-dire, je me détourne des choses de la terre pour m'orienter vers les choses célestes, tout simplement. S'amasser pour l'avenir un trésor qui est placé sur un fondement solide. Bâtir des actions qui sont placées sur le fondement solide. C'est quoi le fondement solide? Christ. Qui dit mieux? Mieux, ça sera difficile, mais... Mais une autre manière de le dire, la parole de Dieu, d'accord? Celui qui a bâti sa maison sur le roc, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole. Donc la parole de Dieu est ce fondement solide. Et si nous agissons suivant le fondement solide des principes de la parole de Dieu, alors nous sommes en train de saisir la vie éternelle. C'est pas difficile, hein? Quels sont les principes, quels sont les fondements que nous retrouvons dans la parole de Dieu? Alors, bien sûr, il y aurait tellement et tellement à dire. Toute la Bible est remplie de fondements. Mais comme nous sommes dans 1 Timothée, on va rester dans 1 Timothée. En fait, ce chapitre 6, c'est la fin de la lettre. Et Paul est en train de dire, je te fais le résumé de tout ce que je t'ai déjà dit avant. Et quand il parle du fondement solide, le fondement solide, il en a donné quelques-uns avant. Mais déjà dans les versets, on peut comprendre les attitudes qui encouragent ce fait de saisir la vie éternelle, entendre et confesser, fuir et rechercher, combattre et discerner. C'est les versets qu'on vient de lire. Hein. Le premier fondement pour saisir la vie éternelle, c'est d'entendre et de confesser. Je relis le verset 12 avec vous. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul encourage en fait Timothée à se souvenir de l'appel qui a retenti dans sa vie. Oui, c'est vrai, Timothée était pasteur, donc il y a eu un appel, mais c'est pas ça. L'appel à la vie éternelle qui a retenti dans la vie de Timothée. Il y en a à qui ça parle ? L'appel à la vie éternelle ? Un jour, dans notre cœur, de manière puissante, nous avons entendu la voix du Seigneur qui nous dit « Je veux te donner la vie éternelle ». Et si on a bien réagi, on a dit « Oui Seigneur, je veux ta vie ». Et voilà ma vie qui elle est totalement vide, elle ne vaut rien au point de vue du ciel. Seigneur, je te l'offre. Remplis-la, change-moi, transforme-moi, donne-moi un cœur nouveau. C'est ça l'appel à la vie éternelle. Nous avons besoin d'entendre, de nous souvenir de cet appel qui a retenti un jour dans notre vie, de revenir à la simplicité de la foi. Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné ? Il m'a donné la vie éternelle, je l'entends et je veux aujourd'hui le vivre. Timothée, il était face à des combats, face à des personnes un peu influentes et je sais combien c'est compliqué. En tant que pasteur, M. Bourdonneuve, il peut dire pareil. On sait combien dans des églises, parfois, il y a des personnes qui veulent prendre la place, mais pour la chair, pas pour l'esprit. Attention, je ne parle pas d'ici, hein, vous inquiétez pas. Mais ça arrive des moments difficiles. Et le jeune pasteur qu'il était, il ne savait pas comment il fallait réagir. Est-ce qu'il fallait qu'il soit ferme ? Est-ce qu'il fallait qu'il soit doux ? Et il était là, il y avait des gens qui étaient très riches, qui avaient beaucoup d'influence. Et Paul est en train de lui dire, non, tu dois saisir la vie éternelle. C'est quoi le fondement ? Souviens-toi d'où tu viens. Tu es un pécheur gracier. Il y en a des pécheurs graciers ici ? Des pécheurs rachetés par grâce ? Voilà, tu es un homme de Dieu, oui, mais souviens-toi de l'appel à la vie éternelle, souviens-toi que tu es un pécheur. Et vous savez, Paul, avant de parler de Timothée, il a parlé de lui. On va au chapitre 1er, verset 15. Là, il introduit la lettre et il prend son cas en exemple pour montrer que on a tous besoin de revenir à cette réalité que le Seigneur nous appelle à vivre la vie éternelle. 1 Timothée 1, 15, c'est une parole certaine. Vous aimez les paroles certaines ? Ça change des fake news et des infox de ce monde qui n'arrêtent pas tous les jours. On est obligé de vérifier 18 fois les informations qu'il y a sur Internet. Même à la télévision, dans les journaux, des fois, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Ils disent les choses qu'ils veulent qu'on entende ou qu'ils veulent nous faire entendre. Mais là, il n'est pas question de ça, il est question d'une parole certaine. Littéralement, c'est une parole fiable à 100%, une parole digne de confiance. Ouh, moi je veux des paroles comme ça. Ouh, ça me plaît, ça. Parce que ça c'est un fondement. Une parole qu'on ne remet pas en question, une parole qui ne change pas avec le temps. Non, c'est une parole qui est vraie, le fondement. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde. Afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et vous voyez qu'on a bouclé la boucle. Une parole certaine et digne d'être reçue, un fondement, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul va dire, dont je suis le premier. Regardez, Paul est en train de dire, regardez mon témoignage. Regardez ce que j'ai vécu. Regardez ce que j'ai fait quand je n'étais pas croyant. Vous connaissez les actes. Vous connaissez le témoignage de Paul. Si vous ne connaissez pas, relisez les actes. À plusieurs reprises, il rend son témoignage. Il y a une excellente façon de faire de l'apôtre Paul. Vous savez, des fois, on me dit, ah, mais moi, je ne sais pas comment rendre témoignage. Et c'est vrai qu'on peut donner des petites astuces, etc. Mais moi, j'ai tout appris comment rendre témoignage en lisant la Bible. Comment Paul y rendait témoignage? Bon, la première étape, c'est de dire, Seigneur, je ne vois rien, je ne sais pas parler, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Hein. Ça, c'est la première étape. Mais après, voilà, comment Paul s'y prend? Étudiez, vous verrez. Et Timothée a fait la même chose. Souviens-toi de la confession que tu as faite devant un grand nombre de témoins. Ben à ce moment-là, comme aujourd'hui nous le faisons, quand on se faisait baptiser, ben on disait une parole, une confession, on proclamait notre foi. Et Timothée l'a fait aussi. Et comme beaucoup on l'a fait quand on s'est fait baptiser, on a proclamé notre foi, mais on comprend que saisir la vie éternelle, c'est pas juste « je me souviens qu'un jour j'ai proclamé la foi il y a 20 ans en arrière ». Non, je l'ai fait, mais tous les jours, je continue de proclamer ma foi. Avec les actes, avec les pensées, avec la bouche quand il y a l'occasion. Mais tous les jours, je suis dans cette confession parce que j'entends l'appel de la vie éternelle à nouveau et je veux vivre que cette vie éternelle m'anime parce que je la saisis et elle est en moi et elle sort de moi par la grâce de Dieu. J'ai obtenu miséricorde, va dire l'apôtre Paul. Combien ont béni le Seigneur ? Enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais si Paul avait résisté, si Paul avait dit, non, mais moi, dans ma religion, je suis au top niveau. C'était le cas, hein. Du point de vue religieux, il était au top. Il connaissait tout. Il avait fait les études avec les meilleurs théologiens de son temps. Il avait sûrement les plus grands diplômes. Gamaliel, le docteur de la loi qui l'a enseigné, etc. Il avait un zèle, il avait une passion pour ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce que Jésus va dire de ce qu'il faisait ? Tu es en train de persécuter l'œuvre de Dieu. Tu es en train de persécuter le Seigneur. Vous imaginez le choc, le coup de poing spirituel qui s'est pris à ce moment-là et qui lui a permis de s'arrêter et qui lui a permis de dire un jour, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. J'ai fait tellement de choses horribles. Mais moi, ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il n'est pas en train de tomber dans la culpabilité extrême, en train de pleurer, « Ah, j'ai fait le mal, je ne vaux rien, je ne pourrai jamais rien faire. » Non, non, tout de suite, il dit, « Mais la miséricorde de Dieu a fait quelque chose, elle m'a transformé. » Vous savez ce que c'est la miséricorde ? C'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Un persécuteur, quelqu'un qui a gardé les vêtements pendant qu'on envoyait des pierres sur Étienne, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous l'auriez choisi comme pasteur de Hoche ? Si vous voulez, je vous en envoie un comme ça la prochaine fois pour la succession. Non, mais personne n'aurait choisi un frère comme ça, frère, entre guillemets. Mais Dieu, il a vu son cœur. Il a vu ce qu'il pourrait faire s'il acceptait cette grâce. La vie éternelle que Paul allait saisir a transformé cet homme. La miséricorde de Dieu a fait qu'il n'a pas été puni, mais la grâce de Dieu lui a donné au-delà, lui a donné ce qu'il ne méritait pas. La miséricorde, c'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite par rapport à la violence et tout ça. Il n'a pas reçu la correction. Quoique, quand dans sa vie de martyr, il a quand même payé d'une certaine manière. Mais ça, c'est l'opprobre de Christ. Mais la grâce de Dieu, c'est qu'il a reçu ce qu'il ne méritait pas. Est-ce qu'il méritait de prêcher l'évangile ? Est-ce qu'il méritait d'être un apôtre ? Est-ce qu'il méritait d'écrire les trois quarts du Nouveau Testament ? Non. Mais Dieu lui a donné de le faire. C'est ça, saisir la vie éternelle. C'est ça, reconnaître son péché. C'est ça, laisser le Seigneur nous montrer qui nous sommes vraiment et se laisser transformer. Vous savez, j'aime bien le dire, mais je le répète. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tel que nous sommes. Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser tel que nous sommes. Parce qu'il veut, il sait qu'on a besoin de transformation. Et ça, son amour, son esprit, sa puissance est là pour nous transformer. Il y a cette petite anecdote du le roi prussien Frédéric le Grand qui visitait une prison à Berlin. Et tous les prisonniers qui ont vu, c'était le roi, donc tout le monde pensait qu'il pouvait être gracié. Tous les prisonniers tombaient les uns après les autres à genoux quand il passait. « Oh, excellence, excellence, votre majesté, je suis innocent !» Tout le monde criait « Je suis innocent, on m'a mis en prison injustement !» Et il y en a un qui n'était pas à genoux et qui restait debout, donc il s'est approché de cet homme. Et il lui a dit, le roi, « Pourquoi est-ce que tu es ici ? J'ai commis un vol à main armée. Est-ce que tu es coupable ? Oui, votre majesté, je suis le plus coupable. Je mérite ma punition, je sais pourquoi je suis ici. » Alors, le roi Frédéric a appelé le gardien de prison et il lui a ordonné « Relâchez sur le champ ce coupable. Je ne vais pas garder dans une prison un coupable parce qu'il va corrompre tous les innocents qui sont là. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est le seul coupable qui a été gracié. Tous les innocents sont restés en prison. Mais réfléchissons-y un instant. Si nous nous disons devant Dieu innocents, nous restons prisonniers du monde. Et c'est ça, saisir la vie éternelle. C'est entendre à nouveau l'appel de la vie éternelle. Seigneur, oui, tu me déclares que je suis un pécheur. Tu as envoyé Jésus pour venir sauver les pécheurs. Mais pour me laver aussi. Jésus, c'est qui ? C'est le sauveur du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il ôte du monde, est-ce qu'il ne va pas, puisque moi j'habite dans le monde, l'ôter de mon cœur si je me repens ? Bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. La repentance nous amène à saisir la vie éternelle et à confesser. Tellement j'ai vécu quelque chose, vous savez, le plus merveilleux, c'est ce que je dis aux gens quand ils demandent comment témoigner. Je leur dis, ce n'est pas une question de lire des revues, de donner des arguments scientifiques à pourquoi les gens doivent croire en Dieu. Le meilleur témoignage, c'est raconter ce que Jésus a fait pour soi. Parce que c'est nos mots, c'est nos expériences. Bien sûr, inspirés avec les versets de la parole de Dieu, mais c'est ce que nous, on a vécu. C'est beaucoup plus facile d'être convaincant quand on a vécu quelque chose que de convaincre des gens de faire des choses que nous, on n'a pas vécues. Vous comprenez ? Mais quand c'est ce qu'on a vécu ? Le Seigneur m'a guéri, j'étais malade, le Seigneur, on a prié pour moi, j'ai été guéri, je sais qu'il existe. Mais ça, les gens, ils peuvent vous dire je suis d'accord ou pas d'accord, mais vous savez ce que vous avez vécu. Et ça, c'est le témoignage. Ça, c'est confesser la vie éternelle en présence d'un grand nombre de témoins. On revient à 1 Timothée. Chapitre 6, verset 11. Le deuxième fondement pour saisir la vie éternelle, c'est de fuir et de rechercher. Alors, c'est deux verbes qui s'opposent, mais c'est ce que dit Paul dans ce verset. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Fuis ces choses, c'est quoi ? Un principe d'étude de la parole, quand on ne sait pas ce qu'il est question, on lit les versets d'avant. C'est un principe très simple. Parce que quand Paul dit « fuis ces choses », il vient de parler juste avant de l'amour de l'argent. Il vient de parler de ces personnes qui ne possèdent pas l'argent, mais qui sont possédées par l'argent. Vous voyez la nuance qui est très intéressante. Le deuxième fondement pour saisir la vie éternelle, c'est de fuir. Fuir de manière générale. Il n'est pas question d'avoir peur des banques. Hein. « Oh, il y a une banque, je change de trottoir. » Non, non, c'est pas ça. C'est ces attraits des trésors terrestres qui nous amènent à les aimer plus que nous aimons Dieu. C'est ça, en fait, que Paul est en train de dire. Timothée, fuis ce qui peut nuire à ta relation avec le Seigneur. Fuis ces choses qui te détournent peut-être facilement. Pour chacun d'entre nous, il y a des trésors que nous aimons sur cette terre et qui peuvent, si on ne fait pas attention, aller trop loin. Timothée, fuis ces choses et recherche les vrais trésors. Vous avez vu ce que la Bible dit qui sont les vrais trésors ? Elle ne parle pas des dollars ou des euros ou de la monnaie, elle parle de la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Est-ce que ça, ce sont vos trésors ? C'est une bonne question, hein ? Si je veux saisir la vie éternelle, ça veut dire, Seigneur, je veux réaliser l'importance de vivre ces réalités-là. C'est Jésus qui va dire lui-même, recherchez premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. La piété, la foi, l'amour. On a parlé longtemps de l'amour ces derniers mois. Mais toutes ces vertus qui sont là, qui sont le fruit du Saint-Esprit, réalisons que ce sont nos trésors et que nous devons les rechercher. Littéralement, c'est nous devons les poursuivre. Il n'est pas question en fait de fuir en disant « Oh là là, j'ai peur de tel péché, etc. » Non, il est question de « Tellement je suis passionné pour les choses de Dieu que je fuis sans m'en rendre compte le reste. » Vous voyez ? On peut voir les choses négativement. « Ah, le Seigneur m'oblige à ne plus faire ci. Le Seigneur me commande de ne pas faire ça. » Ça, c'est parfois la vision qu'on a des 10 commandements. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais quand on a compris l'amour de Dieu et qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, ben Jésus va dire, sans qu'on s'en rende compte, on fait ce qu'il nous commande. sans que ça soit un fardeau pesant. Vous savez, si le croyant ne base pas sa foi et la vie éternelle qu'il vit avec le Seigneur sur l'amour de Dieu, sur cette relation intense et véritable avec le Seigneur, à un moment donné, il va se fatiguer. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est une réalité. Combien de gens ont fait les choses parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils les fassent? Seulement, quand on est enfant, ça fonctionne parce qu'on est soumis à l'autorité de nos parents. Mais à un moment donné, si on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande par amour, ben on va se lasser. Mais si c'est l'amour de Dieu qui règne dans notre cœur, nous l'aimons de toute notre force, pas juste du bout des lèvres, pas juste de temps en temps, les moments dans la journée où j'ai envie, j'aime le Seigneur, non, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, eh bien, j'accomplis la loi sans m'en rendre compte. Et ça devient facile. C'est pour ça que je croise parfois des gens qui sont fatigués, qui luttent avec la foi, qui luttent avec les commandements du Seigneur, parce qu'ils ont oublié peut-être ça, tout simplement. Et j'en vois d'autres. Pendant des années, ils ont mis le Seigneur en premier dans leur vie, simplement. Et on a l'impression que tout est facile pour eux, alors qu'il y a des combats, des montagnes qui sont là. Mais parce qu'on a l'amour du Seigneur, il ouvre les portes. Il assainit, il aplanit même les montagnes, parce qu'il nous aime. Vous connaissez peut-être le missionnaire britannique David Livingstone. Vous avez entendu parler. C'est un homme qui a dévoué sa vie à l'exploration de l'Afrique et à l'évangélisation de l'Afrique. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à sa mort, il est mort en Afrique, il avait deux serviteurs qui étaient là, et ils ont décidé de prendre son cœur, alors c'est particulier, hein, ils ont pris son cœur, ils l'ont enterré sous un arbre dans un village en Afrique, pour signaler combien cet homme il a dévoué sa vie à ce continent, et ils ont renvoyé le corps, il a été inhumé en Grande-Bretagne, dans sa famille, etc. Mais son cœur est resté en Afrique. Ça me fait penser à ce verset du Seigneur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là, c'est littéral, hein. Son cœur est en Afrique. Bon, il ne s'agit pas de faire ça, mais la question, c'est de dire, mais où c'est qu'il est notre cœur? D'accord? N'écrivez pas sur votre testament, je veux qu'on enterre mon cœur dans les catacombes de l'église de Hoche, dans le sous-sol. Non, non, ça ne sert à rien, ça. Mais c'est la réalité de ce que nous vivons. Où c'est qu'il est mon cœur? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit le Seigneur. Recherche la justice, la piété, la foi. On pourrait prendre une prédication sur chaque vertu, je ne veux pas le faire, mais je voudrais juste aller dans cet aspect très pratique, de ce fondement que Paul est en train de rappeler dans 1 Timothée 3 maintenant, verset 1er. Une autre parole certaine de l'apôtre Paul. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil. Il ne tombe sous les jugements du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, etc. Je ne vais pas tout lire, mais remarquez le fondement que Paul est en train de poser, qui est lié à ce qu'on vient de parler. Le fait de fuir ce qui nous détourne des trésors de Dieu et de rechercher les grâces du Seigneur. Le fondement, c'est que ma vie doit se mettre au service du Seigneur. Vous allez me dire, oui, mais là, il est question des évêques. Alors, évêque, ça veut simplement dire ceux qui veillent sur les autres. On dirait aujourd'hui les anciens dans l'Église. Si quelqu'un aspire à être un ancien, c'est une œuvre excellente. Et donc, il y a toutes des critères qui sont là. Remarquez que ce n'est pas les pasteurs qui inventent des critères. « Ah, moi, je veux que dans mon église, on fasse comme ci, comme ça. » Mais c'est la parole de Dieu qui donne des critères. D'accord? Souvent, on nous dit « Mais pourquoi vous êtes dur ?» Non, mais je ne suis pas dur. C'est la parole de Dieu qui demande qu'on établisse un fondement solide. Est-ce que vous voulez qu'il y ait juste une brique sous votre maison ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un fondement solide? Parce que quand la terre va se sécher avec la sécheresse, vous serez content qu'il y ait un fondement solide, que ça va pas craquer de tous les côtés. Vous avez vu les maisons qui sont en train de se morceler partout? C'est intéressant, ça serait intéressant de voir comment les fondements ont été faits. C'est une autre histoire, mais quelqu'un qui veut rechercher la justice, l'amour, etc., il veut dire au Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Alors pour certains, ils vont vouloir devenir des anciens, veiller sur le peuple de Dieu pour aider le pasteur. Mais après, vous avez vu, j'ai fait exprès de commencer le verset 8, il parle des diacres. Les diacres, ce sont quoi? Ce sont ceux qui servent dans les autres domaines de l'Église. Se mettre au service. C'est ça, rechercher l'amour, la paix, la douceur, etc. Troisième fondement, c'est ce verset 12 du chapitre 6 qu'on a lu. Je vous le rappelle, combat, le bon combat de la foi. C'est-à-dire que si nous, le troisième fondement pour saisir la vie éternelle, c'est de combattre et de discerner. Quand on parle avec des personnes, parfois on a l'impression qu'ils sont toujours dans des combats. Mais la question, la bonne question, c'est de se dire, est-ce que c'est le bon combat? Vous savez, on peut passer sa vie à combattre des choses qui n'existent pas, ou combattre, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de combattre contre Dieu. Combien de fois j'ai vu des croyants qui pensaient qu'ils combattaient le bon combat de la foi, et qui en fait, ils étaient en train de lutter avec Dieu, parce que Dieu, il ne peut pas changer sa parole, hein. Et c'est dommage, on perd du temps. Mais on le voit dans la Bible. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le désert, il a combattu contre Dieu à combien de reprises? Mais au milieu de tout ça, il y avait des hommes qui ont dit « Moi, je veux combattre le bon combat de la foi. » Il y avait un Moïse qui était sur la montagne et un Josué qui était dans la vallée. Et quand il y avait ce temps de prière de Moïse, le conducteur du peuple de Dieu, et quand il y avait ce serviteur de Moïse qui était là dans la montagne qui agissait, mais il y avait la gloire de Dieu qui se manifestait. C'est ça, combattre le bon combat de la foi. Alors bien sûr, on sait que c'est pas question des épées, c'est pas question des lances et tout ça, c'est question, vous savez, quelqu'un a dit, la meilleure position pour que le chrétien combatte, c'est à genoux. Imaginez sur un ring de boxe, quelqu'un qui se met à genoux. Oui, mais c'est spirituel. On se met à genoux et on combat le bon combat de la foi. Un jour, deux cuirassés se sont rencontrés dans la nuit. Et ils ont commencé, parce que c'était une nuit sans lune, ils ont commencé à s'attaquer. Ils ont commencé à tirer des obus. Et il y a plein de membres d'équipage qui ont été blessés des deux côtés. Les navires ont été bien détruits. Et au lever du jour, ils se sont aperçus qu'ils étaient dans la même armée. Un combat qui sert à rien. Et qui fait mal. Vous savez, il y a un piège de l'adversaire dans notre temps qui est tellement et tellement et tellement grand. Mais pourtant, le fondement, il est simple. Combat le bon combat de la foi. Il ne s'agit pas de combattre à tout prix. Il s'agit de discerner aussi. Quand on s'attaque à des gens, on combat le mauvais combat. Quand on s'attaque à des gens dans l'église, doublement plus, on combat le mauvais combat. Parce qu'on n'est pas, on est dans la même équipe, comme je dis souvent. Est-ce qu'on va se marquer des buts les uns contre les autres alors qu'on est dans la même équipe? Ça n'a aucun sens. Et parfois, parce qu'on est dans cette nuit des raisonnements humains, des émotions humaines, on se laisse piéger et on se tire les uns sur les autres. Mais quand on a la présence d'esprit de venir devant le Seigneur, « Seigneur, éclaire-moi, montre-moi. » Le Seigneur nous éclaire, nous montre que celui qui est à côté de nous, il est dans mon équipe. Il peut y avoir des moments où on ne se comprend pas, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On discute, on parle dans la paix. Parler dans la vérité avec amour. Parler dans la vérité, on sait faire. Mais parler dans la vérité avec amour, c'est une autre histoire. Quand dire à quelqu'un que ça nous a blessé, mais sans lui sauter dessus en disant « Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça !» Mais prendre les mots qu'il faut, la douceur, on vient de lire que c'était ça, hein, rechercher la douceur, rechercher la paix. Le bon combat, c'est le combat contre les forces des ténèbres qui animent ce monde. On va pas relire Éphésiens 6, relisez-le à la maison, mais combien le Seigneur nous a laissé les choses de manière claire. Dans 1 Timothée 4, on a une petite précision sur ce combat. 1 Timothée 4, 7 est le fondement qui va avec ce combat. 1 Timothée 4, 7 repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Tiens, remarquez la façon dont c'est dit. La vie présente et la vie à venir. La vie éternelle, c'est la vie présente et la vie à venir. Vous avez lu, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, le principe. C'est la Bible. Mais pour que nous vivions, discernions le bon combat, nous devons réaliser qu'il faut des efforts. Exerce-toi la piété. Exerce-toi, c'est un mot qui a donné gymnastique. Fais de la gym pour ta piété. Entraîne ta piété. Exerce-toi la piété. On sent qu'il y a une discipline dernière. Une discipline pour rester attaché au Seigneur. La foi, ça se fait pas la fleur au fusil. La foi, c'est un effort de notre part. Non pas pour être sauvé, on a dit c'est la grâce de Dieu. Mais pour rester attaché au Seigneur, il faut continuellement faire cet effort contre notre chair. Et la grâce de Dieu nous aide à tenir bon. C'est ce divin mélange entre la grâce de Dieu et notre effort personnel qui nous permet de rester attaché au Seigneur. Que son nom soit béni. Exerce-toi la piété. C'est là une parole certaine, c'est le verset 9. Et entièrement digne d'être reçu. Donc c'est un autre fondement. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. On a l'impression en fait que Paul est en train de répéter les mêmes choses dans toute l'épître au final. Parce qu'en fait, le verset qu'on a lu à la fin, c'est la conclusion, c'est le résumé. Mais Paul est en train de dire, la foi c'est un combat. C'est un bon combat. Ça vaut la peine de mettre ses efforts dans ce combat de la foi. Parce que c'est ainsi qu'on saisit la vie éternelle. Vous savez, on peut prier du bout des lèvres. On peut prier parce que le pasteur il cite des sujets et il faut lui faire plaisir. Ou alors on peut prier de tout notre cœur. Mais à votre avis, qu'est-ce que le Seigneur va préférer ? De tout notre cœur. De toute notre âme. Il y a une intensité dans la façon dont je vis ma foi qui vient en fait de ce bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de dire, Seigneur, je vais me donner entièrement à ce que je fais. Je veux prier. Oui, il y a des personnes qui sont malades. Vous savez, quand on prie pour quelqu'un qui est malade, qui ne peut plus venir à l'église, forcément, à un moment donné, ça nous donne envie d'aller le voir ou de l'appeler. Si on prie avec tout notre cœur, si on prie vite fait, tiens, hop, j'ai coché la case, j'ai prié pour lui, allez au suivant. Non, non. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a ce bon combat de la foi. Et c'est intéressant dans ce texte que nous lisons, quand Paul dit « nous travaillons et nous combattons », le mot « combattons », c'est un mot qui a donné « agonie ». Nous agonisons. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui est là. Est-ce que vous êtes content que le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il a prié jusqu'à l'agonie ? Mais, si vous savez que s'il n'avait pas été dans cette dimension-là, il serait peut-être mort dans le jardin de Gethsémané, tellement il avait la pression, le temps avec la visitation du diable qui était là, c'était un temps horrible. Il y a cette combat de la foi. Mais pourquoi ? Mais pour qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à la croix. On va prendre dans quelques instants cette table, et en se souvenant, c'est le bon combat. Jésus l'a montré l'exemple. Alors nous ne sommes pas appelés à mourir. Quoique, on ne sait pas, hein. On ne sait pas si les temps changent. En tout cas, nous sommes appelés à donner notre vie pour la vie éternelle. Combattons. Combattons jusqu'à l'agonie. Vous savez, il y a des moments où quand on prie, il y a quelque chose qui se passe, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, on ne ressent rien, hein, mais on prie quand même parce qu'on sait qu'il faut. Mais il y a des moments parce qu'il y a cette intensité du cœur. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le lieu spirituel, même si on ne voit rien. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il veut qu'on prie comme ça tout le temps. Le bon combat de la foi, c'est ça. Le bon combat de la foi, c'est pas juste je vais me mettre au service à l'accueil, dire bonjour aux gens parce qu'il faut que je le fasse. Le bon combat de la foi, c'est même s'il n'y a pas de service d'accueil, j'aime les gens parce que ce sont des frères et des sœurs dans le royaume de Dieu, je vais accueillir. Peut-être des gens qui sont nouveaux, je vais les accueillir parce qu'il y a un feu qui brûle dans mon cœur. Vous savez, moi j'ai appris, moi grand timide, qui rougissait à tout bout de champ, j'ai appris à me mettre à la sortie avant d'être pasteur, bien avant d'être pasteur, des dizaines d'années avant, parce que le Seigneur m'a poussé à le faire. Et à dire bonjour à des mamies que j'avais jamais rencontrées. C'était une église, il y avait 300 personnes, donc il y avait du monde, on connaissait pas tout le monde. Mais le Seigneur, tellement il remplissait mon cœur, j'avais cette envie de lui plaire tout simplement. On peut faire les choses et se mettre au service parce qu'il faut, ou alors le faire parce qu'on a compris ce que c'est le bon combat de la foi. Et c'est ça, saisir la vie éternelle. On va fermer les yeux quelques instants, mais je voudrais rappeler à nos cœurs, comme Paul l'a fait à Timothée, la vie éternelle, saisis la vie éternelle, mon frère, ma sœur, à laquelle tu as été appelé. Nous avons été tous appelés à la vie éternelle. Cette vie présente et la vie à venir, bien sûr. Mais le Seigneur veut nous bénir ce matin. Il veut que cette vie éternelle, elle bouleverse notre existence. Elle nous donne un élan nouveau. Il sait ce dont nous avons besoin. Il y a une année scolaire qui s'ouvre devant nous. Il est celui qui veut conduire chacun de nos pas. Il est celui qui veut nous utiliser avec toute sa puissance. Il est celui qui veut faire des exploits que nous, on ne pourra jamais faire tout seul. Vous connaissez ces paroles, ce psaume et ce cantique. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui fait l'œuvre au travers de nous. Et ce matin, le Seigneur veut nous rappeler qu'il cherche des pêcheurs graciés. Il cherche des hommes qui entendent son appel à la vie éternelle et qui disent « Oui Seigneur, je ne suis rien devant toi, mais je t'offre tout ce que je suis. » Est-ce que nous allons saisir la vie éternelle? Est-ce que nous allons combattre le bon combat de la foi? Faisons-le. Ce sont des fondements et nos vies vont changer encore plus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce que tu nous donnes des paroles certaines, des paroles entièrement dignes d'être reçues. Seigneur, nous voulons mesurer ce que c'est. Ce ne sont pas des paroles légères. Ce ne sont pas des paroles qui passent, qui sont emportées par le vent. Mais ce sont tes paroles. Ces paroles qui apportent la vie, Seigneur, et nous voulons les serrer sur notre cœur. Et nous voulons bâtir notre existence sur ces fondements que tu mets devant nous. Nous voulons amasser ces trésors en bâtissant sur ces fondements, Seigneur. Oh, merci, parce que ce matin, tu es là au milieu de nous. Tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais les tracas de cette existence. Tu sais peut-être ces trésors qui nous sont chers sur cette terre et qui arriveraient peut-être à nous piéger si on se laissait aller. Mais tu es celui qui nous donne la force. Et nous voulons, Seigneur, ce matin devant toi, revenir à la croix, à se souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous pouvons saisir la vie éternelle parce que tu as donné ta vie et tu l'as donnée en abondance à tes brebis, Seigneur. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous serrons ta parole contre notre cœur et nous voulons agir pour t'honorer, Seigneur. Bénis cette Église, bénis nos vies, Seigneur. Tu vois, ceux qui nous visitent et ceux qui sont de l'Église, chacun en particulier, tu sais pourquoi nous sommes là ce matin. Donne-nous la portion de grâce que tu as prévu de nous donner ce matin. Nous voulons saisir ta grâce et être une bénédiction. Bénis ce département, bénis notre pays de France, bénis, Seigneur, les autorités de cette ville, de ce département, bénis cette région, bénis, oui, notre président de la République, bénis le gouvernement, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui appellent la bénédiction. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu nous appelles à faire. C'est ça, saisir la vie éternelle. Ô Éternel, tu sais combien dans ce monde il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de guérison, besoin de restauration, besoin d'encouragement. Et ta parole est remplie de tout cela. Seigneur, nous voulons porter la bonne nouvelle. Remplis-nous de toi ce matin encore. Et pour ta gloire. Amen.